Alors, merci, merci Adama pour ces prières à laquelle on dit Amen. Et merci Benoît, toute l'équipe musicale pour nous avoir conduits dans ce temps d'adoration, ce temps de louange qui s'est fait tellement du bien. Et c'est un beau rendez-vous qu'on a le dimanche matin pour se souvenir de celui qui nous a tant aimés. Alors, ce matin, nous en sommes donc à notre deuxième partie de notre série d'avant Noël, qui s'intitule « Noël n'est pas à propos de moi ». On a entendu dimanche dernier notre frère Denis qui nous a présenté ce premier volet concernant des présents qui furent présentés à Jésus par les mages. Le premier mentionné dans notre passage qui est l'or. L'or qui est offert au roi. Alors, regardons ensemble encore une fois ce passage qui nous intéresse dans Matthieu, chapitre 2, au verset 11. S'il y en a qui ont leur Bible, vous pouvez tourner. On l'a à l'écran pour ceux qui auraient oublié leur Bible à la maison. Alors, Matthieu, chapitre 2, verset 11. « Ils entrèrent, en parlant des mages, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Alors, en deuxième position de ce trésor précieux, on y mentionne de l'encens. L'encens est une substance qui est produite à partir d'un groupe d'arbres appartenant au genre, et ça, c'est pas une farce, Boswell. En fait, le terme scientifique, c'est le Boswellia sacra, et qui est originaire de la péninsule arabique, qui est au sud, plus précisément dans l'actuel sultanat d'Oman, et il est encore évidemment cultivé aujourd'hui. Il est principalement exporté par la Somalie, le Yémen et l'Inde. La résine, qui est le produit brut, est par la suite transformée sous diverses formes pour être consommée par la chaleur dans un brasier, et sa fumée dégage une odeur supposément agréable. On aime ou on n'aime pas. Et on se sert, de cette substance depuis des millénaires, comme un arôme odoriférant, un parfum. Moi, personnellement, j'opte pour quelque chose de plus simple, le push-push en cacane. La fabrication du parfum est un art qui remonte à la nuit des temps. On y retrouve en Mésopotamie et en Égypte ancienne des indications de l'utilisation de parfums, d'aromates utilisés entre autres lors de rites funéraires pour l'embaumement des défunts. Il s'agit d'un art à travers lequel le maître parfumeur, et en bon français on les appelle le nez, le nez, N-E-Z, les maîtres parfumeurs, développent et utilisent différents composés pour obtenir des arômes qui sont mélangés avec un solvant qui est typiquement de l'éthanol ou benzène, ainsi qu'une portion d'eau. Donc, il faut aussi savoir que l'intensité et la longévité d'un parfum va dépendre, bien sûr, de la qualité des huiles, des composés, ainsi que des concentrations. C'est pourquoi on y retrouve une variété de parfums sur le marché et on s'y perd. Il y a des parfums à l'état presque pur ou ce qu'on appelle des extraits de parfums, des esprits de parfums, de l'eau de parfum, de l'eau de cologne, de l'eau de toilette. Je ne comprends pas qu'il y en ait qui payent pour ça. Et gratis chez nous. Les sources aromatiques peuvent provenir de plantes et d'animaux. On connaît le fameux parfum pour hommes, le musk, qui est un extrait d'un organe de l'animal. Je n'irai pas dans les détails. Et on utilise aussi de nos jours des molécules maintenant synthétisées. Les parfums sont une industrie qui génère près de 30 milliards de dollars par année en revenus annuels de vente, avec plus de 1165 marques disponibles sur le marché. Et fait intéressant, on dit que 17 % des femmes aux États-Unis n'utilisent pas de parfum. J'étais surpris, 17 %. Alors, je me considère vraiment béni dans ce 17 %-là. Le Seigneur m'a donné une femme qui n'est ni intéressée par les parfums, ni par l'or. Je peux donc miser sur des cadeaux d'ordre pratique, hein? Des bonnes mitaines de fourneau, neuves, une nouvelle batterie de cuisine, le summum, la balayeuse sans fil. Et pourquoi le parfum est-il si populaire encore de nos jours? Eh bien, ce n'est pas simplement pour sentir bon ou masquer les odeurs indésirables, mais certainement à cause des effets que le parfum cause sur le plan olfactif, qui agit dans le cerveau et qui stimule la dopamine, ce sentiment de bien-être, et qui agit aussi comme des phéromones, ces hormones qui sont en partie responsables de l'attirance, de l'attraction. Les parfums vont toujours avoir une place sous l'arbre de Noël. Mais c'est même biblique, hein? Proverbe 27, verset 9. « L'huile et les parfums réjouissent le cœur. » Et même Naomi, qui a conseillé sa belle-fille Ruth de se laver puis de se parfumer avant d'aller à la rencontre de sa conquête. Et qu'en est-il maintenant de l'encens? Étant donné qu'il s'agit de notre substance vedette ce matin, l'un des trois cadeaux présentés par les mages à Jésus. Eh bien, dans les Écritures, les parfums, les aromates, les encens entrent officiellement en scène dans Exode chapitre 25. Donc, juste pour bien se situer dans le temps, c'est important, le livre de l'Exode, si on ne l'associe pas immédiatement à la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, alors on court vite s'inscrire à un cours de survol de l'Ancien Testament. Peut-être que c'est une idée, ça, des certificats cadeaux d'école biblique pour Noël. Ce serait... Non, mais c'est important d'avoir un minimum de repères dans le temps pour faciliter notre étude biblique, notre étude des Écritures. Donc, les faits saillants à retenir, livre de l'Exode, chapitre 12, institution de la Pâque, sortie de l'Égypte, Exode 14, traversée de la mer Rouge, pour ensuite 3 mois de marche dans le désert, l'arrivée des cailles, la manne, l'eau qui sort du rocher, la guerre contre les Amalécites. Et là, on arrive finalement au pied du mont Sinaï. 3 mois. Exode 20, Israël reçoit les 10 commandements. Dieu amorce sa présentation des ordonnances, de ses commandements, de la loi, en commençant par 10 commandements. Les chapitres 21 à 23 sont des spécifications des lois sociales. Et là, au chapitre 25, débutent les ordonnances sur les sacrifices, les holocaustes. Et premièrement, au verset 6, pas très loin en débutant, Dieu demande à son peuple, à titre d'offrande, des aromates, des parfums, pour qu'ils puissent être ensuite utilisés par le souverain sacrificateur pour l'autel des parfums odoriférants, lors des offrandes, lors de l'adoration, comme il a été mentionné ce matin, lors des holocaustes. Les parfums utilisés devaient être préparés selon des recettes bien précises et exclusives au service sacerdotal. Ils avaient même un parfum réservé exclusivement pour l'Éternel, un composé spécifique selon l'art du parfumeur, salé, pur et saint. Les parfums les aromates et l'encens ont un rôle bien précis dans le système sacrificiel ordonné par l'Éternel lui-même selon des normes très rigoureuses. Non seulement ça, mais uniquement les descendants de la maison d'Aaron pouvaient présenter ces feux, ces brasiers, hein, sur lesquels on déposait le composé du parfum de l'encens. Ces parfums odoriférants qui accompagnent les sacrifices d'expiation des péchés. Et il devenait, en quelque sorte, un moyen de transport de l'offrande, cette fumée, hein, afin que la prière faite par le souverain sacrificateur puisse atteindre Dieu d'une odeur agréable. C'était du sérieux, vraiment sérieux. Aucun parfum étranger ne pouvait pénétrer la tente d'assignation pour y être présenté à l'Éternel. Et on se souvient de cet homme nommé Corée, accompagné de 250 hommes de renom dans l'Assemblée d'Israël, se révolte contre Moïse et Aaron et présente leur propre parfum, leur propre feu, leur propre brasier devant l'Éternel, qui les consuma en un instant. Trop vite. On lit au livre des Nombres, chapitre 16, verset 32, et qui décrit bien ce qu'on voit à l'écran. « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. » Au verset 35, « Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. » Ces hommes ont méprisé l'Éternel. Leur parfum était non recevable. Cette arrogance a entraîné toute leur famille dans ce jugement de Dieu. Au même instant, l'Éternel continua d'étendre sa colère au milieu de ce peuple en rébellion, et une plaie tua pas moins de 14 700 personnes. On ne niaise pas avec le parfum de l'Éternel. Tellement sérieux que même la toute-puissante Église impériale romaine continua, et encore aujourd'hui, de perpétuer ce rituel des parfums odoriférants autour de l'autel, juste avant le sacrifice de l'Eucharistie, avec un encensoir qu'on balance en mouvement de pendule à bout de bras. Plusieurs d'entre nous ici, on a connu ça. Et même ça faisait une odeur, moi j'étouffais. Ça restait longtemps. Mais la palme d'or revient aux fidèles de la cathédrale de Santiago de Compostela, Saint-Jacques de Compostelle, qui fabrique un encensoir de laiton surnommé le Botafumiero, qui fait pas moins de 1,60 m de hauteur et qui pèse près de 55 kg. Le mouvement de balancier est actionné par 8 hommes qui réussissent à projeter le Botafumiero à plus de 20 mètres de hauteur dans la voûte principale de la cathédrale et qui forme un arc de cercle de 65 mètres. On calcule, lorsque l'encensoir passe à ras de sol, il va à une vitesse de 68 km/h. Je ne sais pas si Yannick, on pourrait passer de vidéo à ce moment-là. On va avoir une petite démonstration de qu'est-ce que ça donne. prennent ça au sérieux. Écoute, la corde lâche, 4 morts, 12 blessés. J'espère qu'ils ont des bonnes assurances. J'aimerais reculer un petit peu dans le temps, parce que bien avant que le parfum, les aromates, l'encens faisaient officiellement partie des pratiques sacerdotales prescrites par l'Éternel, il y a une histoire bien connue dans laquelle ces biens précieux et onéreux, dispendieux, sont mentionnés. C'est l'histoire de Joseph, fils de Jacob, qui évidemment faisait l'envie de ses frères, et qui un jour décide de s'en débarrasser afin d'éviter qu'un jour Joseph vienne qu'à dominer sur eux, bien qu'il soit seulement le fils cadet. Parce qu'on connaît, Joseph avait des visions, il avait vu ses frères, et il leur explique, « Je vous ai vu en train de vous prosterner devant moi. » Ils n'ont pas aimé ça. Alors, on lit dans Genèse, chapitre 37, verset 25, « Après avoir jeté Joseph dans la citerne, une caravane d'Ismaélites venant de Galade, en extrême Moyen-Orient, passait par là avec leurs chameaux qui étaient chargés d'aromates et de baumes, etc., qui étaient transportés vers l'Égypte. Les frères de Joseph décident de ne pas le laisser mourir au fond de la citerne, et il le livre à ces marchands de parfums du désert. Joseph allait donc faire partie d'une cargaison de parfums qui s'en allait en Égypte. Et bien que Joseph a été vendu comme esclave à un officier de Pharaon, figurativement, Joseph allait être un cadeau pour l'Égypte, et indirectement pour sa famille, son peuple en Canaan. Joseph allait devenir un baume sur la tribu de Jacob, d'Israël, qui allait souffrir d'une grande famine. Donc, emmené en Égypte par les marchands de parfums, d'aromates, plus d'une douzaine d'années plus tard, Joseph est établi par Pharaon comme premier ministre du royaume et va préparer l'Égypte pendant 7 années à surmonter une sévère famine qui allait frapper tout le Moyen-Orient pendant 7 longues années. La tribu de Jacob en Canaan n'allait pas être épargnée non plus. Les fils de Jacob sont alors envoyés en Égypte pour aller chercher de quoi nourrir les familles en Canaan. Et Siméon, à ce moment-là, est pris en otage par les gardes du premier ministre, Joseph, mais il ne savait pas. Et regardez bien ce qui arrive. Lorsque les frères de Joseph retournent vers Jacob pour lui annoncer qu'il devait ramener le fils cadet, Benjamin, en Égypte, parce qu'on avait gardé Siméon en otage, Jacob accepte de peine et de misère, puis il donne les instructions à ses fils dans Genèse, chapitre 43, verset 11, « De prendre avec eux, à titre de présent, les meilleures productions du pays, un peu de baume, un peu de miel, des aromates. » Non seulement ils allaient payer pour racheter le blé, mais Jacob voulait s'assurer que cet Égyptien qui gardait un de ses fils en otage leur serait favorable. Rapporter les meilleures productions du pays. Et arrivé en Égypte, dans la maison de Joseph, ils arrivent devant eux et on lit au verset 26, toujours au chapitre 23, au 43, nous lisons. « Ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Ils se prosternent devant ce puissant souverain et lui offrent ce qu'ils avaient de plus précieux, un peu de baume, du miel, des aromates, des noix, etc. » Ce qu'ils avaient de plus précieux. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Moi, de ce temps-là, ça me fait penser à bien des hommes. On va voir cette semaine là, des hommes qui vont se retrouver dans des magasins de parfums qu'on ne voit jamais. Ils vont se procurer quelque chose de précieux à remettre à quelqu'un de précieux pour eux. Non, pas seulement ça, mais on pense à ces hommes dont on parlait tantôt, ces mages, hein? Ces mages qui entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, se prosternèrent, s'adorèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent l'or, l'encens et la myrrhe. Joseph, une figure de Jésus, le Christ, une figure, un type, une représentation, une image de quelqu'un qui allait venir. Et puis alors, toute une bénédiction s'en est suivie. Alors là, je coupe une partie du récit pour en venir au point culminant et au chapitre 44, toujours dans Genèse, où le souverain d'Égypte décide de se révéler, son identité, qui avait gardé le fils cadet de Benjamin. Il dit, « Je le garde. J'ai décidé de le garder. » Et puis à ce moment-là, Judas dit, « Écoute, prends-moi à sa place. Prends-moi à la place de Benjamin. Mon père ne pourrait pas souffrir une autre fois, hein, comme il avait déjà fait. » Et là, Joseph se révèle à eux. Leurs yeux s'ouvrirent et ils constatent qui est véritablement cet homme. Leur cœur se remplit de joie, de soulagement. Joseph, leur frère! C'est sûr que là, ils étaient un petit peu... se demandaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre, hein, parce qu'ils n'avaient pas été très gentils avec lui. Mais une partie, hein, faut réaliser là, qu'une partie de la vie de ce jeune Israélite qui a été sacrifié pour les combler cette famille de tout le blé dont ils avaient besoin, mais non seulement ça, il allait même les accueillir en Égypte. Toute la tribu allait être. Il dit, prenez votre père et vos familles, venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Et vous mangerez la graisse du pays. Genèse, chapitre 45, verset 18. Il les accueille. Et là, j'imagine la scène. Hein? Judas qui s'approche de Joseph, il dit, « Hey, le frère, comment t'as, tu penses qu'on peut rester? » Ben, tu sais, Joseph, il dit, « 400 ans, c'est-tu assez? » Mais il n'avait pas idée. Hein? Les frères qui ont comploté de tuer leur jeune frère de peur de lui être soumis. Et voilà, ils se retrouvent tous à la merci de cet homme qui avait le pouvoir de vie ou de mort sur eux. Mais voilà, hein, voilà ce qu'ils entendent de la part d'un des intendants de Joseph, hein, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. Ne craignez rien, c'est votre Dieu. Le Dieu de vos pères, c'est lui qui est en contrôle de la situation. Inquiétez-vous pas. Celui qui était annoncé depuis la nuit des temps, que même des mages d'Orient connaissent la prophétie, la venue de ce roi, et qui se sont déplacés pendant des mois pour se prosterner devant lui et lui offrir eux aussi ce qu'ils avaient de mieux. De l'or pour un roi, de l'encens pour un sacrificateur et de la myrrhe, ça c'est la semaine prochaine, avec Michel. Près de 700 ans avant la visite des mages dans cette maison en Israël, voilà ce que le prophète Ésaïe annonçait. Et on lit au chapitre 60. Je vais lire à partir du verset 1, mais à l'écran, vous avez seulement une partie de 5 et 6. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Tu tressaillis alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madiens et d'éphas. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. » 700 ans avant la venue des Mages. Déjà, Ésaïe, inspiré d'Esprit de Dieu, annonce que toutes les nations, un jour, apporteront ce qu'ils auront de plus précieux, entre autres de l'or de Séba et de l'encens. À ce grand roi, le roi des rois qui règnera sur eux. La visite des Mages est un clin d'œil. C'est un clin d'œil de ce jour à venir. Ce roi qui est le même depuis le commencement, celui qui est en parfaite communion avec Adam et Ève en Éden, celui qui ordonna à Noé de construire l'arche, celui qui avait promis une descendance à Abraham, celui qui a protégé et dirigé le destin de Joseph, celui qui a sorti son peuple de l'esclavage en Égypte et qui leur donna la loi au mont Sinaï, celui qui fut annoncé, le même, annoncé par l'ange du Seigneur aux bergers, ces bergers frappés de frayeur et qui entendent dire « Ne craignez point, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ne craignez point celui qui fut accueilli en roi par des mages étrangers, des païens. » Et certains commentateurs le voient comme une image que l'Évangile qui allait être annoncé aux nations. Ces étrangers apportant ce qu'ils avaient de plus précieux, leur trésor à ce petit enfant. Ce petit enfant qui allait grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et à son heure venue, il allait parcourir les villes, les villages de la Galilée, de la Samarie, de la Judée, jusqu'à Jérusalem, la capitale d'Israël. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, celui qui allait être lui-même le baume, l'aromate, l'encens, le parfum de Dieu lui-même, le Fils unique, incarné en Jésus-Christ, homme, l'encensoir de Dieu qui sillonne les rues, les maisons, les foules, propageant autour de lui sa bonne odeur. Il est celui à qui cette femme pécheresse, en Luc, chapitre 7, qui oignit les pieds avec un parfum pur et de grand prix. Avez-vous, comme cette femme pécheresse, reconnu qui était cet homme? Sentez-vous l'odeur de vie lorsque vous entendez sa parole? Eh bien, vous qui ne l'avez pas reconnu encore, hein, le voici. Et, comme l'ange dit, ne craignez point. Recevez le cadeau, recevez le don de Dieu. Il a quitté sa place éternelle auprès de Dieu pour se faire sacrificateur et nous combler de son parfum. Celui qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme un parfum, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Recevez ce matin, maintenant, le cadeau de Dieu. Refusez les parfums étrangers. Déposez aux pieds du roi, comme ces mages, comme les frères de Joseph. Déposez aux pieds du roi des rois ce que vous estimez de plus précieux, ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas abandonner. Déposez-le au pied du roi et recevez Christ. Et pour ceux qui écoutent ce matin et qui ont déjà eu cette grâce de reconnaître Christ, soyons conscients que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, laissons maintenant Christ répandre par nous et en tout lieu l'odeur de sa connaissance. la bonne odeur de Christ parmi les sauvés et parmi ceux qui périssent. Et à cette odeur qui circule parmi le peuple, parmi nous, l'apôtre Paul ajoute ceci. En Philippiens 4, 18, hein, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. En effet, nous sommes comblés par cette communion que nous avons et le service que nous recevons de nos frères et de nos sœurs. Et l'autre part maintenant, l'autre part à cette odeur que nous répandons dans le monde autour de nous lorsque nous témoignons de l'Évangile, cette odeur que nous répandons à ceux qui périssent, rappelons-nous qu'elle a deux effets. Deux effets. La première, voilà ce que la parole nous dit, elle est aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Donc, soyons pas surpris ni étonnés de ceux qui reçoivent cette odeur de mort et nous rejettent. Mais ce n'est pas nous qui rejettent, mais c'est la bonne odeur de Christ. C'est ça qui rejette. L'Évangile qui les met en face de leur condition, de leur péché, de leur rejet de qui est Dieu. Mais il y en a cependant qui reçoivent favorablement cette odeur et pour qui ça sent la vie. On apporte une bénédiction sur eux en répandant l'odeur de Christ. Comme Joseph qui a été arraché de sa vie, comme Joseph qui a été arraché de sa vie de berger d'auprès des siens en terre promise, qui a été sacrifié pour devenir ce parfum de bénédiction pour l'Égypte et en même temps un parfum d'abondance pour sa propre famille. Donc, si vous connaissez Christ, soyez conscient que vous êtes comme Joseph, répandant cette bonne odeur, l'odeur de Christ dans votre Église, votre travail, votre famille, vos loisirs, partout. Je voudrais terminer avec ceci, dans le but de s'encourager, parce qu'il y a un autre aspect du parfum que j'aimerais partager avec vous ce matin en terminant. On connaît tous l'histoire de Zacharie en Luc 1. Cet homme avancé en âge, marié depuis plusieurs années, qui n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth, son épouse, était stérile. Zacharie, un sacrificateur au temple selon les ordonnances du service sacerdotal, et son travail était d'offrir le parfum sur l'autel des parfums, et pendant que le peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Et combien de fois ce couple avait certainement apporté en prière à la maison et à l'heure du parfum, au temple, leur profond désir d'avoir un enfant. Puis pourtant, la parole nous dit que Zacharie et Élisabeth étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On serait presque en droit de dire, « Dieu, c'est quoi le problème? »« Ah ouais, go! » Et puis, la réponse est arrivée. Bon, peut-être vous allez dire qu'elle est arrivée un petit peu sur le tard. On pourrait dire ça. Mais voilà, encore une fois, c'est une belle démonstration que Dieu, il ne travaille pas de la même manière que nous. Heureusement. Et fort probablement qu'il s'agissait d'une requête de prière que Zacharie et Élisabeth, ils ne faisaient plus cette prière-là depuis plusieurs années. Mais je veux attirer votre attention ce matin sur le fait que les requêtes que nous présentons au Seigneur sont un parfum qui ne se dissipe pas. il ne se perd pas. Contrairement à l'encens du temple, qui devait être constamment être répété, présenté par le sacrificateur. On a un encensoir céleste, hein, qui est pas mal plus imposant que celui de Saint-Jacques de Compostelle, qui renferme nos prières, puis elles ne seront jamais perdues. Un homme a dit, et je cite, « Le ciel est rempli de ferventes prières, bien que non répondues, elles ne sont jamais oubliées. » La fervente prière, comme l'odeur de l'encens, enfermée au ciel. Et on lit dans Apocalypse, chapitre 8, les versets 3 et 4, « Et entre autres, un ange vint et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. La requête de Zacharie et d'Élisabeth était quelque part dans ce parfum céleste et Dieu s'en est servi pour mettre au monde un homme, un précurseur, Jean le Baptiste, qui allait annoncer l'arrivée du royaume parmi son peuple. Nos requêtes sont là. Elles sont toutes là. Et elles ne sont pas oubliées. Mais acceptons que Dieu ne travaille pas toujours comme on le veut. Et c'est peut-être même une réponse qui va arriver du temps qu'on ne sera plus vivant. Et peut-être même que Dieu a un plan pour votre requête de prière qui dépasse de loin toute notre sagesse, comme il l'a fait avec Zacharie et Élisabeth. Eh bien, ma prière ce matin, c'est que nous soyons tous, en ce Noël 2017, des porteurs, des encensoirs de la bonne odeur de Christ dans nos familles et envers tous nos prochains. Alors, dimanche prochain, ne manquez pas la troisième et dernière partie de notre série « Noël n'est pas à propos de moi » avec Michel. Prions. Oui, Seigneur, on veut ce matin s'arrêter et considérer ce cadeau qui a été offert lorsque tu étais petit enfant par des mages étrangers, ce trésor, ces choses qu'ils avaient de plus précieux à un roi qu'ils ne connaissaient pas, mais qui était annoncé et qu'ils attendaient depuis des générations. Seigneur, on ne veut pas attendre. On veut accepter immédiatement ce cadeau que tu nous fais. Seigneur, ma prière, s'il y en a ce matin qui ne te connaissent pas, que tu te révèles à eux, comme Joseph s'est révélé à ses frères et qui a été une source de joie pour eux, oui, Seigneur, révèle-toi qu'il accepte ce cadeau que tu donnes, ton Fils unique, Jésus-Christ. Et qu'il soit pour eux et pour nous, pour toujours, Seigneur, cette bonne odeur que nous allons répandre grâce à toi, seulement par toi, Seigneur. Et que les gens reconnaissent que tu es le seul espoir, le seul odeur agréable que Dieu puisse reconnaître, et il vient de toi. Seigneur, fais-nous du bien. Bénis cette assemblée en communion fraternelle que nous allons prendre ce repas ensemble, Seigneur, et que nous puissions également être encouragés, fortifiés ensemble, et qu'on puisse sortir de ce lieu encouragés et continuer de répandre ta bonne odeur, celle de Jésus-Christ. En Jésus, nous te prions. Amen.